l'irascible. Et donc Jésus avait la capacité d'être en colère. Et il semble bien que Jésus, de temps en temps, se soit mis en colère. L'Évangile nous le montre. On le sent bien, du reste. Ce serait très intéressant de dire la théologie de la colère de Jésus. Et de bien comprendre ce que ça représente. Alors, saint Thomas dirait pro-passion. Cette colère a été immédiatement assumée par une volonté d'amour. Donc c'est une pro-passion. Tandis qu'au contraire, lorsque vous vous laissez aller à la colère, c'est toujours très dangereux du reste. Quand vous sentez l'orage monter en vous et la colère monter en vous, faites tout pour l'arrêter. Vite le paratonnerre. Parce que s'il n'y a pas de paratonnerre, votre colère va augmenter et vous vous laissez prendre au jeu. Très curieux de voir comment certaines personnes aiment de se laisser prendre au jeu de la colère. Alors vous tombez dans le drame. Et le drame justifie toutes vos colères. Et là, ça peut aller très loin, la colère. La colère peut conduire au meurtre, la colère peut conduire au suicide, la colère peut conduire à des tas de choses. Parce que c'est la passion la plus profonde. Il ne faut jamais jeter de l'huile sur quelqu'un qui est en colère. On a tous fait ça quand on était gosses et qu'on voyait quelqu'un particulièrement colérique parmi nos camarades. Et alors on s'amusait de voir quand il était en colère. On s'amusait de pousser un peu plus. Vis-à-vis d'un pion. Mettre en colère des pions, c'est le plus grand plaisir d'un pensionnaire. C'est un plaisir extraordinaire. Je me souviens de ces colères devant de préfet de discipline des jésuites. On l'avait surnommé colérant. Et alors, c'était bien. Évidemment, une fois que les supérieurs ont découvert qu'on avait une choléra, on l'a enlevé. Et alors, je l'ai retrouvé 10 ans après, grand responsable de la ligue féminine. J'ai compris le génie de la compagnie. Il était préfet de discipline. Alors, à la fin de l'année, il était en colère tout le temps. Parce que même quand il venait donner les notes, on arrivait à le mettre en colère. C'est terrible, quelqu'un qui est pris par la colère. Parce qu'il n'a plus de contrôle. Il n'a plus aucun contrôle. Et alors, dès qu'on découvre ça et qu'on est gosse, on s'amuse. Il n'y a rien de plus drôle que de voir une autorité en colère. Pas une sainte colère, parce que l'autorité en sainte colère, c'est normal. Mais une autorité qui se laisse emporter par la colère. Il n'y a rien de plus drôle. C'est comme un personnage très digne qui dérape sur de la glace. Toute sa dignité tombe d'un seul coup. La calotte de l'évêque qui dégringole. Alors évidemment, le gosse est là pour la ramasser. Ça fait partie, vous voyez, du risible. Le risible, c'est ça. Ce que dit Bergson sur le rire. C'est très curieux, c'est lié à la colère. Il n'y a rien de plus curieux que quelqu'un qui est en colère, ça vous fait rire. Parce que ça vous met toujours dans des états, n'est-ce pas, des choses qui ne sont plus harmonieuses, qui sont dans autre chose, oui.
En face d'un geste injuste, par exemple, une personne âgée attaquée dans la rue,
je sais pas. Ah, on se met en colère, ça, c'est... Mais ça c'est une sainte colère. Ah, c'est tout à fait autre chose. Alors à ce moment-là, est-ce que c'est ça qui appelle sa colère? Tandis que s'il ne pouvait pas taper, sa colère augmente. On ne réfléchit même pas dans la colère. La colère fait passer immédiatement à l'exécution. Il n'y a rien qui fait aller plus vite à l'exécution de la colère. Tandis qu'en deux temps, en colère, il y a toujours un petit moment d'arrêt pour savoir si on peut passer l'exécution. Tandis que quand vous êtes dans un état colérique, vous passez l'exécution tout de suite.
Toutes les colères
froides. Même les colères froides. Parce que les colères froides sont des colères qui peuvent être saintes.
Oui, mais alors elles ne sont pas
Ah oui, mais elles passent à l'exécution tout de suite. Il y a un télescopage qui est très très connu au sein des premiers principes.
Est-ce que c'est pas ce qui caractérise la colère de la colère froide?
La colère sainte, hein. La colère sainte contrôlée, fait passer tout de suite à l'irascible, fait passer tout de suite à l'exécution. Tout de suite. Vous voyez ? Elle est contrôlée, elle est dominée, elle est finalisée. C'est le point de la finalisation qui fait qu'une colère est sainte et qu'il n'est pas sainte. Vous voyez ? Parce que d'un côté, la colère qui n'est pas sainte veut détruire. C'est le premier but de la colère, c'est de détruire l'obstacle. Vous voyez des garçons qui ne respectent pas le vieillard et qui tapent, la première chose qu'on a, c'est de détruire le gosse qui tape. C'est de rendre incapable de taper. Et à ce moment-là, immédiatement, on tape dessus. Ça, c'est le mouvement colérique qui veut détruire ce qui produit un désordre.
On peut aller plus loin que ça, donc c'est pas tout à fait juste.
Pourquoi ?
Pardon ? Qu'est-ce qui est pas juste ? Ben, on peut aller plus loin que de vouloir frapper celui qui a déjà frappé.
Mais attention, je parle de la colère passion. C'est ça la colère passion. Et la colère sainte, alors, elle a un but constructif. Toute colère a un but constructif, mais le propre de la colère passion, c'est de détruire celui qui crée les gens. Et ça fait comprendre l'efficacité de la colère. La colère a cette efficacité immédiate. C'est pour ça que je dis qu'une période passe immédiatement quand on dit la colère. Pour détruire ce qui consomme ce vivant. Vous voyez un gosse qui bat un vieillard dans la dôme, eh bien, immédiatement, vous le rendez impuissant. Vous détruisez la cause du mal, du vivant. Ça, c'est immédiat. Et ça, c'est le premier moment de la colère. Et la colère fait ça, immédiatement. Alors, la colère passionnelle fait ça, parce que la colère passionnelle, elle a un but immédiat, et c'est tout. La colère sainte, vous voyez, elle fait ça autrement, puisqu'elle finalise. Et donc, vous ne détruirez pas l'autre. Tandis dans un moment de colère, on peut détruire l'autre. Vous voyez, c'est ce qui explique comment on peut tuer quand c'est la colère. Tandis que dans une colère sainte, vous ne tuez pas. Vous voyez, vous immobilisez en vue de corriger, en vue d'un bien positif.
C'est Jésus qui peut le faire. C'est pas nous qui pouvons le faire.
C'est l'Esprit Saint. C'est pour ça que par le don de force, nous fait en nous des colères saintes.
C'est le monde d'irascible qui explique que la langue est gesticulée en face de ce genre de choses actuellement.
Ah, les gens sont
beaucoup d'irascibles. Moi, j'assiste seulement à une différence, mais je crois que est-ce que c'est pas plus simple de prendre tout simplement dans ces affaires-là le point de vue juridique du droit normal. Il s'agit de porter assistance à une personne pour l'attaque, et l'assistance doit être proportionnée à l'attaque. Et si on peut
attraper
la personne,
un
point c'est tout. On
n'a
pas le droit de porter les coups
disproportionnés. Non, mais attention. Moi, nous ne nous plaçons pas du tout dans le même point de vue. Vous placez-vous du point de vue du droit et du point de vue de la morale. Moi, j'essaie de comprendre ce que c'est la passion colère. C'est tout à fait différent, vous voyez. C'est la question que nous nous plaçons. Nous nous posons la question, y a-t-il dans le Christ la colère ? La colère passion. Qu'est-ce que c'est que la colère passion ? Mais le droit garde toujours les effets. Le droit ne regarde pas ce que représente la colère passion. C'est au plan philosophique, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que la colère passion. C'est pas autre chose que je fais ça, mais je ne me place pas du tout du côté moral ici. Je me place simplement de savoir que ce que représente la passion parmi les diverses passions, ce que représente la passion de colère, vous voyez ? Alors, vous placez, et vous avez raison, que du côté juridique et du côté moral, alors on se placera de ce côté-là, le faux. Mais ce que nous regardons ici, c'est qu'est-ce que c'est la passion de colère. Saint Thomas dit, la passion de la colère, c'est la passion la plus noble. Mais il y a quelque chose de noble dans la passion de colère. Parce qu'on est en face d'un désordre, et en face de ce désordre, on veut supprimer ce désordre. C'est le propre de toute colère. De toute colère passionnelle, vous voyez. Et c'est justement ce qui est très particulier dans la colère comparativement aux autres passions, c'est que dans la colère, il y a un certain ordre. Et c'est pour ça que ça donne la vie que c'est la passion la plus noble. Parce que c'est la passion qui est la plus proche de l'intelligence. C'est pas sain, la colère. Ce qui explique du reste comment on peut manipuler la colère. On peut la manipuler, on peut exciter, on peut augmenter. C'est tellement curieux de voir des gosses qui tapent les uns sur les autres. Mais au point de vue, vous voyez, au point de vue proprement, ce que c'est que la passion. De voir cette espèce d'intelligence mauvaise dans la colère. Et nous avons tous connu ça quand on était gosses, quoi. On a tous connu ce que c'était que... Heureusement, tu vois, parce que si on n'a jamais été mis en colère, notre peuple est raciste, c'est complètement quelqu'un. Oui.
Quand il s'est mis en colère, il a pris un fouet.
Oui.
Alors c'était pour réveiller quoi, la crainte?
Il a détruit le désordre. Première chose qu'il a fait.
De quelle façon?
Le désordre, c'était quoi? Il s'était installé là où il ne devait pas être installé, il s'était installé pour le change. Ne faites plus de ma maison de mon père une maison de trafic. On fait une maison de trafic, on enlève le trafic, et Jésus prend le fouet, parce qu'un fouet est efficace.
Et ça m'est servi pour taper sur les vendeurs.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous dites?
Et ça m'est servi pour taper sur les vendeurs.
Mais, il a renversé l'étable, c'est dit dans l'Écriture, il a renversé l'étable. Il y a eu un geste de colère. Et d'une colère sainte, c'était le zèle du Père, le zèle de la maison du Père. Colère sainte, donc finalisée pour remettre le sens du droit de la majesté du Père. C'était parce que les hommes n'avaient pas le sens, n'avaient plus le sens de cette majesté du Père que le Christ est saint. Mais quand vous faites de l'Église une maison du peuple, bien, je suis sûr qu'il y a une colère sainte du Christ pour faire que l'Église soit premièrement le lieu de la prière, le lieu d'adoration. L'adoration peut ensuite fleurir au jardin maternel, mais c'est en premier lieu l'adoration. Et quand on met en premier lieu la rencontre des hommes entre eux, c'est la maison du peuple. Mais, alors là, il y a un don, il y a quelque chose qui n'est plus respecté, ce quelque chose qui n'est plus respecté, c'est justement ce point de vue, si vous voulez, de cet ordre religieux fondamental qui est en nous, qui est de respecter ce qui est dû à la majesté souveraine du Père. Alors, c'est très important parce que les psychologues disent ça, et je crois que là ils ont tout à fait raison quand ils disent ça, c'est que les colères expriment nos vulnérabilités. Très important pour l'éducation. Quelqu'un qui éduque bien doit être très attentif aux colères d'un gosse. Pour voir quand il se met en colère. Pour saisir ses vulnérabilités. Et quand je dis vulnérabilité, c'est quelque chose de positif. Hein. Pour saisir ce qui met en colère. Parce qu'on est tous sensibilisés à des points de vue très différents. Tous, sensibilisés des communs différents. Le laboratoire de la vie commune montre que chacun a ses sensibilités différentes. L'un est sensibilisé parce que le travail est mal fait, manuellement, la cuisine est mal faite, on répond mal au téléphone, l'autre est le travail intellectuel. Aucun sens du travail intellectuel. On est tous sensibilisés du point de vue différent. Quand on lit un article, on est tous sensibilisés à tel ou tel point. Et on voit tout de suite le désordre. Et ce désordre est en colère. Et on veut réparer ce désordre et rétablir l'ordre. Alors, la colère veut rétablir l'ordre si on se laisse aller à la passion en détruisant. Une colère sainte diminue la destruction pour quelque chose de positif.
Est-ce qu'on peut se mettre en colère s'il est trop de sang couvert dans l'église? S'il est trop. Le curé de paroisse, qu'est-ce qui se passe?
Alors là, ce sont des cas particuliers. Et chaque cas particulier, c'est la prudence qui doit regarder exactement la manière dont il trompe. Alors voyons la première remarque que je disais, La colère de l'homme n'opère point la justice de Dieu. Réponse. Comme le remarque saint Saint-Grégoire, la colère chez l'homme se présente sous une double forme. Tantôt elle prévient la raison et l'entraîne avec elle dans l'action. Et alors on peut dire que la colère opère, car l'opération s'attribue à l'agent principal. À ce point de vue, l'on comprend que la colère de l'homme n'opère pas la justice de Dieu. Tantôt la colère suit la raison et devient, pour ainsi dire, son instrument. Et alors l'opération qui a pour objet la colère, qui a pour objet la justice, ne s'attribue pas à la colère, mais à la raison. C'est les deux ordres de colère. Hein. Une colère qui est dominée par la prudence et une colère qui domine la prudence. Tu vois, la passion est avant ou après. Hein. Alors, la colère qui transgresse l'ordre de la raison est opposée à la mansuétude, mais non pas la colère qui est modérée et maintenue par la raison dans le juste milieu. Car ce juste milieu, c'est précisément la mansuétude qui permet de le garder. Oui, c'est la question de la colère et de la douceur. Hein. C'est la colère et la miséricorde. C'est-à-dire, celui-là toujours miséricordieux ne se met jamais en colère. Ne jamais se mettre en colère, c'est mauvais. Ça voudrait dire, c'est pas sur le même plan, la colère et la miséricorde, c'est pas sur le même plan. Dans toute communauté, il y a des désordres. Il y a des pendules qui ne marchent pas. Dans toute communauté. Alors, puisque dans toute communauté, il y a des désordres, on pourrait être en colère tout le temps. C'est évident. Alors, si on est en colère tout le temps, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est un manque de miséricorde. Regardez davantage les personnes, vous verrez moins les désordres. C'est ça le secret. Si vous regardez davantage les personnes, vous voyez moins les désordres. Et vous voyez plus, alors, le regard de miséricorde que de vous avoir. La colère, elle, je veux dire la miséricorde, regarde les personnes et les enveloppes de miséricorde. La colère regarde les désordres, c'est le sens de la justice, c'est l'ordre, c'est l'œuvre qu'on regarde. Alors on voit le désordre dans l'œuvre et on se met en colère. Alors, voyons la dernière objection. Saint Grégoire dit que la colère causée par le péché aveugle l'œil de l'esprit. Tandis que la colère causée par le zèle le trouble. Mais dans le Christ, le regard de l'intelligence ne fut jamais aveuglé ni obscurci. Ni le péché ni le zèle n'ont poussé le Christ à la colère. Chez nous, répond saint Thomas, dans l'ordre naturel, les puissances de l'âme s'entravent mutuellement, si bien que lorsque l'opération d'une puissance est intense, celle d'une autre puissance s'en trouve affaiblie. De là vient que le mouvement de la colère, même lorsqu'il est modéré par la raison, empêche souvent la contemplation de l'âme. Ça, c'est très vrai. C'est jamais bon pour le contemplatif de se mettre tout le temps en colère. Hein? Parce que quand il est en colère, c'est difficile qu'il soit dans le repos contemplatif. Mais dans le Christ, du fait de la modération apportée par la puissance divine, chaque faculté pouvait conserver son action propre, sans se trouver empêché par une autre. Aussi, de même que la jouissance goûtée par l'esprit dans la contemplation n'empêchait pas la tristesse, ni la douleur des facultés inférieures, de même les passions des facultés inférieures ne mettent pas d'obstacle à l'activité rationnelle. Prof de Jésus. Nous, si nous nous laissons aller trop à la colère, eh bien, c'est un handicap énorme à la contemplation. Ça, c'est constant. Parce que nous regardons trop les œuvres. Vous voyez, le fruit du facere. Et si nous regardons trop les œuvres, notre cœur est trop pris par ça et ne peut plus contempler. Parce que notre vitalité est limitée. Alors, si nous sommes trop attentifs aux œuvres, nous ne pouvons plus contempler. Alors, évidemment, faisons attention. Alors, vous dites, moi, je vais tout le temps contempler, je peux regarder toutes les œuvres. Bon, je dois regarder quand même ceux dont je suis chargé. Alors, je dois avoir ce regard. Mais c'est très vrai que si on regarde trop les œuvres, la contemplation en pâtit. Alors, dernier article, le Christ a-t-il été à la fois pèlerin et bienheureux ? Alors, au pèlerin terrestre, il appartient d'être mu vers la fin bienheureuse. Au bienheureux, il appartient de se reposer en cette fin. Mais il ne peut se faire qu'un même sujet à la fois soit mu vers une fin et se repose en elle. Par conséquent, le Christ ne pouvait pas être à la fois pèlerin et bienheureux. Réponse de saint Thomas. Il est dit dans Jérémie, tu seras comme un étranger sur la terre et comme un pèlerin qui dresse sa tente pour la nuit. Ça, c'est très beau comme parole de Jérémie. Quasi, colonus futurus est in terra. Et quasi viator declinans ad manandum. L'on est pèlerin lorsqu'on tend vers la béatitude. Dicitur viator. L'on est pèlerin lorsqu'on tend vers la béatitude. L'on est bienheureux lorsqu'on la possède déjà, selon cette parole de la première épître aux Corinthiens, courez ainsi afin de parvenir à la béatitude. Et cette autre parole de l'épître aux Philippiens, je poursuis ma course pour tâcher de parvenir à la béatitude. Or, la béatitude parfaite de l'homme comporte celle de l'âme et du corps, celle de l'âme, qui est la béatitude proprement dite, et qui consiste dans l'esprit, qui consiste pour l'esprit à voir Dieu et à jouir de lui. Celle du corps, qui suppose que le corps ressuscitera, spirituel, puissant, glorieux et incorruptible, ainsi qu'il est dit dans la première épître aux Corinthiens. Mais l'esprit du Christ, avant la passion, avait la pleine vision de Dieu. Le Christ possédait donc la béatitude propre à l'âme. Quant au reste qui se trouve inclus dans la béatitude, cela lui faisait défaut. Son âme, en effet, était passible, et son corps passible et mortel, ainsi qu'il était dit. C'est pourquoi le Christ était à la fois bienheureux, parce qu'il possédait la béatitude, propre à l'âme, et pèlerin, parce que pour tout le reste qui lui faisait plaisir, pour tout le reste qui lui faisait défaut, il tendait vers la béatitude. Donc, les deux plans qu'il faut essayer de comprendre dans le Christ, hein, le point de vue de l'être et du devenir. Je mets ça en parallèle. Hein. Je mets compréhensor, donc bienheureux. Le bienheureux, c'est celui qui est en acte parfait. Et pèlerin, celui qui est inviolable. Il n'y a aucune impossibilité à ce que dans le Christ, il y ait ces deux états. L'état de bienheureux, donc d'être parfaitement en acte, il est bienheureux. Et l'état de pèlerin, in via, c'est-à-dire le point de vue du devenir. Il tend vers la béatitude. Ah, vous voyez, la difficulté, c'est de voir ce partage des eaux dans la charité du Christ. C'est là toute la difficulté. Ça, c'est facile à comprendre. Hein, facile à comprendre, c'est relativement facile à comprendre. Les sommets de l'âme du Christ étaient dans la béatitude. L'âme humaine du Christ, transformée par la grâce, était dans la béatitude. Et cette même âme du Christ, dans son conditionnement terrestre, était pèlerin. Vous voyez le partage des eaux au niveau de l'agapé, au niveau de l'amour. En tant que pèlerin, il peut poser des actes méritoires. En tant que bienheureux, il est au-delà. Il ne mérite plus. Le mérite, c'est sur la terre. Il nous sauve. Il ne nous sauve pas en tant que compréhensible. mystère de la croix doit se comprendre du côté du pèlerin, du côté du pèlerin.
Oui. Le problème des théologiens, c'est qu'il y a une croissance dans l'amour de Christ. Ils disent qu'il est pleinement, son amour est pleinement divin dans la croix.
La croix représente un sommet, c'est son heure de pèlerin. Son heure de compréhension est tout le temps présente, tout le temps en acte, puisque c'est la vision béatifique et c'est l'éternité. Tandis qu'en tant que pèlerin, ben, c'est le sommet. Il y a un sommet dans la vie du Christ. Tout est tendu vers ça, vers son heure. Et c'est son heure qui représente donc l'expérience, la connaissance expérimentale la plus parfaite. La connaissance expérimentale du Christ n'a cessé de croître et a connu à la croix un sommet. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que cette connaissance expérimentale aurait pu porter aussi sur son amour? C'est qu'il a découvert dans son amour quelque chose.
Dans son amour, à l'égard de qui?
À l'égard du Père et des hommes. Un moment particulier sans que l'amour n'ait grandi en intensité.
C'est toujours le côté de l'extension, comme toujours la connaissance expérimentale. C'est quelque chose de nouveau. Mais, il a découvert à la croix quelque chose de nouveau dans son expérience d'amour à l'égard du Père, à l'égard de Marie, à l'égard de Jean, à l'égard de chacun d'entre nous. Il a connu quelque chose de nouveau. Enfin, je peux dire qu'il y a une nouvelle, une expérience d'un type particulier de liberté que Jésus a connu à la croix. Oui. Alors, je vois la première réponse. Hein. Il est impossible d'être mu vers une fin et de se reposer en elle, sous le même rapport. Mais cela est possible si l'on se place à des points de vue différents. Ainsi, un homme peut à la fois connaître les choses qu'il sait déjà et apprendre les choses qu'il ne sait pas. Deux aspects différents, tout simplement. Et sous ces deux aspects différents, il n'y a aucune impossibilité. C'est pas commode hein, de vivre ça. Oui, c'est ce que nous pouvons comprendre un tout petit peu, parce que c'est là où on voit la profondeur de l'expérience du Christ qui est unique. Puisque tout est toujours sous le fond de la vision béatifique. Tout est vécu sous le fond de la vision béatifique. Donc ça donne une profondeur unique au point de vue humain à toute la vie de Jésus. On va dire que nous ne pouvons pas connaître, hein, insoupçonner. Alors nous pouvons avoir un tout petit peu le sens de ça quand justement nous sommes très très pris par la prière, par le réseau, et que nous devons œuvrer. Que nous faisons à ce moment-là était dans la lumière même de la contemplation. On communique ce qu'on contemple. Alors on peut comprendre qu'il y a justement deux moments différents qui ne s'opposent pas, mais qui s'appellent mutuellement. Alors, vous voyez la réponse à la seconde objection. La béatitude appartient proprement et principalement dans l'âme à l'esprit. In anima secundum mentem. Le secundum mentem, à l'âme en tant qu'elle est esprit. Mais secondairement, et pour ainsi dire instrumentalement, les biens du corps sont nécessaires à la béatitude. C'est l'opinion d'Aristote. Pour lequel les biens extérieurs servent à la béatitude organiquement. Alors, voyez, organice, des servions de Béthunis. Cette fameuse question, est-ce que les biens extérieurs font partie de la béatitude? Alors, bien extérieur, le corps, fait partie de la béatitude organique. Pas, c'est très très curieux, hein, c'est assez délicat à bien préciser, organique. C'est-à-dire, non pas essentiellement, mais non pas secondairement. Et vous êtes obligé d'inventer un nouveau terme, organique. Parce qu'au plan vital, le corps n'est pas un accident. Le corps est un instrument conjoint. Or, l'instrument conjoint est plus qu'un accident. C'est quelque chose qui permet à l'âme de vivre pleinement. Organique. Alors, il traduit instrumentalement, vous voyez que ce n'est pas tout à fait juste. Organiché ne fait pas appel directement à la cause efficiente, tandis qu'instrumentalement fait appel à la cause efficiente. Organiché fait appel à un état particulier de perfection. Alors on devrait dire pour lequel les biens extérieurs servent à la béatitude, oui, il y a organiquement. Il y a instrumentalement, instrumentalitaire, organiché. Organiquement, c'est organiquement, là, c'est juste de dire ça. La comparaison entre les âmes saintes des défunts et le Christ ne vaut pas pour deux motifs. D'abord, les âmes des saints ne sont pas passibles, comme l'était l'âme du Christ. Ensuite, les corps des saints ne font rien pour tendre à la béatitude, tandis que le Christ, par les souffrances corporelles, tendait à la béatitude et à la gloire du C'était aussi une vision très particulière et très intéressante de saint Thomas à propos justement du point de vue de la béatitude et de la glorification. Quand saint Thomas montre que le corps du Christ a un rôle actif, tandis que notre pauvre corps n'aura pas de rôle actif pour notre résurrection. Donc voilà les déficiences. Hein. De l'âme de Jésus.
Comme action dans le corps du Christ qui a eu comme rôle actif, quelle action ?
Parce qu'il est toujours uni au Verbe de Dieu. Même comme cadavre. Le cadavre du Christ subsiste dans le Verbe. Et c'est dans ce sens-là qu'il est incorruptible. Et c'est dans ce sens-là qu'il peut avoir un rôle actif. Ce que l'on peut attribuer au Christ sous le rapport de l'être et du devenir. Alors ici, nous avons une question, la question 16, quelque chose de très spécial, très intéressant, qui est plus, hein, c'est plus la réflexion du théologien. Après avoir essayé de comprendre, saisir, situer exactement le mystère de l'incarnation, les conséquences de ce mystère, il y a une attitude de réflexion pour un but de jugement. Le jugement. Il nous faut maintenant envisager les conséquences de l'union hypostatique, soit par rapport au Christ considéré en lui-même, c'est comme vous le savez, soit par rapport au Christ considéré dans ses relations avec Dieu le Père, soit par rapport au Christ considéré dans ses relations avec Dieu. Les trois conséquences, hein, en lui-même, par rapport au Père, par rapport à nous. C'est Jésus considéré tout de suite comme médiateur, en lui-même, par rapport au Père, par rapport à nous. Vous voyez les trois dimensions. Sur le premier objet, sur la première considération, nous verrons d'abord ce que l'on peut attribuer au Christ du point de vue de l'être et du devenir, puis ce qu'on lui convient sous le rapport de l'unité. À propos de l'être et du devenir, 12 questions se posent. Peut-on dire avec vérité Dieu est homme ? Ça, c'est une proposition de cette partie. Intéressant, cette espèce de petite logique du théologien qui doit essayer. Je vais aller très vite là-dessus. Hein. Je vais aller très vite parce que qui nous intéresse en premier lieu. C'est très intéressant pour le critère théologien pour voir si les hommes parlent bien. Si en raison du mystère de l'incarnation, vous dites les choses qui sont vécues vraiment correctement. On va un langage correct. Avoir un langage correct, c'est justement essayer de comprendre exactement ce qu'on peut dire lorsqu'on affirme certaines choses du Christ. Donc, peut-on dire avec vérité « Dieu est homme » ? C'est tout à fait des cols d'examen. Peut-on dire « L'homme est Dieu » ? Votez oui, votez non. Peut-on dire du Christ qu'il est un homme dominical ? Vous n'avez jamais pensé. Ce qui convient au Fils de l'homme peut-il être attribué au Fils de Dieu et réciproquement? Ce qui convient au Fils de l'homme peut-il être attribué à la nature divine et ce qui convient au Fils de Dieu à la nature humaine? Peut-on dire le Fils de Dieu a été fait homme? Peut-on dire l'homme a été fait Dieu? Peut-on affirmer que le Christ est une créature? Peut-on dire du Christ, cet homme a commencé d'être ou a toujours été? Peut-on soutenir que le Christ en tant qu'homme est une créature? Ou bien est-il possible d'affirmer que le Christ en tant qu'homme est Dieu? Enfin, est-il vrai de dire que le Christ en tant qu'homme est une hypostase, une personne? Vous voyez bien que ce sont des questions secondaires. C'est pas... Ce qui est intéressant, c'est les principes qui commandent ça. Alors, on ira assez vite parce que ça peut aller rapidement, ça.